hormis ces quelques figures, finalement assez peu nombreuses, pour le reste, c'est extraordinairement difficile de rendre toutes ces choses-là palpables, comme on dit chez nous, mettre de la chair, même mettre de la viande un peu sur le sujet.
Oui, c'est vrai, c'est un échappatoire finalement assez confortable et traditionnel en période de crise, c'est-à-dire on va pointer du doigt deux, trois personnalités qu'on va nous présenter comme tout à fait emblématiques de certains dysfonctionnements du système, des gens avides de pouvoir, qui n'ont pas de morale, qui recherchent l'argent,
cupides.
Donc on est dans une dénonciation éthique et non pas politique ou critique d'un système, c'est la première chose. On pointe des individus isolés plutôt que de montrer le fonctionnement d'une classe sociale, d'une oligarchie en tant que telle. Et donc voilà, on a eu Bernard Madoff, et puis il y a eu le génie, l'ascension, et puis la chute de Jean-Marie Messier. Voilà, donc on a toujours, dans l'histoire belgique aussi, on a Albert Frère. Donc on a deux, trois personnalités comme ça, assez emblématiques. Mais c'est chaque fois autant d'arbres qui cachent la forêt, quoi, en quelque sorte.
Geoffrey, est-ce que la crise dans laquelle nous sommes entrés, à un moment on a décidé que c'était la crise, et effectivement, si on pense à ce qui s'est passé aux États-Unis, si on pense à ce qui se passe actuellement en Grèce et dans un certain nombre de pays européens, on peut vraiment parler d'une crise. Est-ce que cette crise change votre discours, modifie ce que vous dites ?
Ah non, je pense que la crise, elle a un mérite, si je puis dire, c'est que en période de crise, pour celui qui veut bien y regarder, les masques tombent. C'est-à-dire que si on pense à tout le travail de gens comme Serge Halimi, Pierre Hébert, Bourdieu, tous les gens qui étaient autour de Raison d'agir notamment, et tout le travail de Case Dixon, Loïc Wacan, tout le travail qui a pu être fait de dénonciation et d'analyse comme ça, très, très minutieuse et très critique, très pointue, de l'évolution de la social-démocratie, hein, dénonciation du social-libéralisme, de la troisième voie, etc. Je pense que la crise aujourd'hui est quand même interpellante dans la mesure où, d'une certaine façon, le masque tombe du côté de toute une série de dirigeants socialistes, puisqu'on doit bien constater qu'en Espagne, Zapatero, au Portugal, en Grèce, Papandreou, maintenant en Belgique, puisqu'on a un premier ministre francophone, ce qui est historique chez nous, socialiste, qui est aussi à la pointe de gouvernement, qui mène une politique d'austérité. Et donc, je pense que pour celui qui vient bien y regarder, on a au contraire tous les traits essentiels du fonctionnement de ce système depuis des dizaines d'années, mais de façon caricaturale. C'est-à-dire une social-démocratie qui, à l'évidence, a choisi la voie de l'austérité et d'une très grande proximité avec le monde des affaires. Ça, c'est la première chose. Ici, les choses sont, me semble-t-il, beaucoup plus marquantes et beaucoup plus caricaturales qu'auparavant. Mais il faut encore bien y voir, quand même, pour déceler ces choses-là. Et puis, deuxièmement, c'est le rôle de l'État. Parce que, quand même, on nous dit l'État est séparé du marché, à l'ère du libéralisme, l'État n'a plus rien à dire. On tenait ce discours quelques mois avant la crise, et puis qu'est-ce qu'on voit ? L'État, subitement, a la capacité de reprendre le pouvoir. On nationalise ou semi-nationalise les banques. On n'avait plus d'argent, on retrouve de l'argent pour renflouer ces banques. Et évidemment, une fois que les banques se portent mieux, de nouveau, l'État, subitement, n'a plus d'argent, et il faut mener une politique d'austérité. Donc là, si là, on n'a pas une belle image, quand même, de ce qu'est réellement l'État, et non pas l'image que se font de l'État, ceux qui se reconnaissent dans le néo-keynésianisme, dans une certaine forme d'altermondialisme très chic ou très mondain, là, on a une image, me semble-t-il, très, très fidèle à la réalité de ce qu'est l'État. C'est-à-dire que l'État n'est pas du tout séparé du marché ou des capitaux privés, mais l'État fait corps avec ses capitaux. Et même la Grande-Bretagne, de Blair, de Gordon Brown, de cette social-démocratie très libérale qu'on nous a dénoncée pendant des années, a été la première à nationaliser les banques britanniques et à se porter au secours. Alors là, c'est quand même un contre-exemple magnifique, alors qu'on nous dit que l'État n'avait plus rien à dire.
Ce que vous évoquez aussi dans ce bouquin, c'est l'opposition qui a été installée entre l'économie financiarisée, qui serait la vilaine économie, et l'économie productive, qui serait vertueuse, parce que productrice de richesses. Alors, plus on critique, on déteste l'économie financiarisée, plus on accepte ce qu'on n'acceptait pas jadis. L'économie de papa, c'est-à-dire qu'on regrette le capitalisme paternaliste qui était finalement aujourd'hui revenu, cher paternaliste du 19e siècle. Ça, c'est vraiment l'illustration, ce que je dis là, est vraiment l'illustration parfaite du bouquin de Serge Halimi, Le Grand Bond en arrière. On en est à regretter ce bon vieux temps des patrons papa.
Oui, c'est vraiment le cas. Ça me fait penser à une vidéo qui circule pas mal sur Internet où on voit, je pense que c'est au Forum Social, mais je ne sais plus exactement lequel, on voit celui qui n'était pas encore le Premier ministre de la Belgique, Élodie Rupo, responsable socialiste, qui dénonce l'ultra-capitalisme, le turbo-capitalisme, le libéralisme sauvage. Et puis, il y a à sa table, pour ce débat qui est organisé, un responsable syndical italien, communiste, je pense, qui prend la parole et qui lui dit « Mais monsieur Di Rupo, pourquoi critiquez-vous l'ultra-capitalisme, le capitalisme sauvage. Est-ce que le capitalisme